maintenant sur les ondes de Radio Albitzes, retrouvez votre créneau conférence. Aujourd'hui, c'est Bernard Rayet qui vous propose cette conférence enregistrée en juin 2021 au village de Lagarde-Vior, une conférence autour des verreries forestières.
Bonjour à toutes. Le 26 juin 2021, Dominique Guibert donnait une conférence au village de Lagarde-Vior à propos des verreries forestières dans la vallée du Vior. Avant de lui laisser la parole, il y aura une brève présentation de Lagarde-Vior et des associations organisatrices. Mais auparavant, précisons ce que sont les verreries forestières. Les verreries forestières étaient des ateliers installés dans les massifs forestiers, dont dans les forêts du Languedoc. Installation nécessaire pour le bois de chauffe. Elles ont été les ancêtres de nos verreries industrielles. Dominique Guibert cite la ville de Sommières, qui était le centre juridique de la corporation en Languedoc, et des verreries de Moussan, territoire verrier dans les forêts de la Montagne Noire. Dominique Guibert a publié « Verriers et verreries forestières du Rouergue et de l'Aveyron, généalogie des gentilshommes verriers du Haut-Languedoc ». Bonne escoute, bonne écoute. Bonjour Robert, peux-tu te présenter rapidement aux auditrices et aux auditeurs de Radio Albigès ?
Ben bonjour déjà à eux, Robert Laveau, président de l'association Vivre à Lagarde-Vior.
Oui, Lagarde-Vior, c'est un village, je crois, et tu peux le situer un peu ?
Alors, comme son nom l'indique, au bord du Vior, à 500 mètres de l'Aveyron et à 25 minutes de Carmaux.
Et je crois que c'est un village très pittoresque.
Alors, c'est un petit village médiéval du XIIIe siècle qui dépend de la commune de Montira.
D'accord. J'ai enregistré une conférence que tu vas nous présenter rapidement.
Alors, cette conférence a été organisée avec le collectif Jardin, Culture et Partage de Saint-Christophe. Il y a une vingtaine d'années, derrière le retable, a été trouvé des morceaux...
Le retable de l'église.
Le retable de l'église Saint-Thomas de Canterbury. A été trouvé des débris de verre qui paraissaient anciens. Les gens qui ont déposé le retable pour le restaurer ont remis au conservatoire départemental, à Madame de Sachy, ces morceaux de verre. Cette dame les a confiés à Monsieur Bertrand pour étude et dépôt au musée du verre. D'accord. De Sorèze.
D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il en est sorti ?
Alors, il s'agit de burettes liturgiques du XVIIe siècle, que vous pourrez voir dans la première chapelle. Avant de laisser la parole à notre conférencier, je voudrais remercier, au nom des associations, Monsieur le maire de Montira et le conseil municipal, Madame Bertrand, présidente de l'association du musée du verre de Sorèze, qui nous a gentiment prêté ces morceaux de burettes, Madame Roque est la chargée de communication du musée du verre de Sorèze. Monsieur Subra, directeur du musée du verre de Carmaux et la communauté de communes, pour le prêt des vitrines. Il était important que ces pièces liturgiques soient protégées par des vitrines.
D'accord.
Et je remercie aussi les membres des deux associations qui sont chargés de la préparation. Je laisse maintenant la parole à monsieur Dominique Guibert.
Voilà. Bon, chers auditeurs et chères auditrices, bonne écoute.
Pour commencer, l'histoire de l'invention du verre est très ancienne et lointaine, puisqu'elle débute au Proche-Orient et en Égypte vers 1500 ans avant Jésus-Christ et connaît un progrès majeur grâce à l'invention de la canne à souffler au 1er siècle avant notre ère qui se répand en Syrie. Historiquement, l'artisanat verrier s'est développé et transmis dans quelques rares familles qui ont accédé au statut de noblesse dans notre région. Alors, les premiers verriers connus de la région, donc Jean Colomb, verrier, et Jean Trortol, aussi verrier, qui disent demeurer à Laguépy, dans le département du Tarn-et-Garonne, et travailler dans cette juridiction, promettent le 25 novembre 1409 à un marchand de cordes la somme de 8 livres 11 sols pour 2 cannes de drap de Verdun et 10 palmes de drap de Courtrai. La canne et le palme, ce sont des unités de mesure de longueur. En 1424, Pierre Colomb, verrier, affirme les revenus en blé du prieuré de Ségur, enfin, ou du Ségur, qui est pas loin d'ici, canton de Monestiès. Quelques décennies plus tard, le 25 juillet 1473, Jacques Colomb, verrier de la verrerie de Bonan dans la juridiction de Millars, loue à Antoine Garnier, alors il appelait commandaire en occitan, de la dite verrerie un ouvreau de four pour une durée de 2 ans, avec le bois livré devant le dit four moyennant le prix de 25 écus d'or. De plus, Jacques Colomb, fils de Géraud, loue à Jean Colomb, fils de Jean, un autre ouvreau aux mêmes conditions. Ces colons sont probablement à l'origine d'une nombreuse descendance qui perpétua le travail du verre dans tout le sud-ouest, le Languedoc et même au-delà. Toujours à la Guépie, Pierre d'Estève, qui est qualifié de donzel, est verrier à la Guépie en 1416. Le 11 août 1431, il est qualifié de Nobilis Petrus d'Esteva Verrerius, c'est-à-dire noble Pierre d'Estève verrier. Pour cette période, Charles Portal signale encore la verrerie dite d'El Toron, paroisse de Somar, dans la commune de Saint-Martin-la-Guépie, où Gilles Garnier est verrier en 1434. Baptiste Garnier, dit à présent habitant à la verrerie des Crozes, juridiction de la Guépie, en 1466, puis verrier de Requista, commune de Saint-Christophe, en 1472. On le retrouve ensuite établi avec son fils Jean en 1491 à Vaour. Bertrand Garnier habite à la verrerie de Cabanes, commune de Saint-Bolise, en 1452, et Antoine Garnier vit à la même verrerie en 1453. C'est ce dernier que l'on retrouve plus tard, commandaire à la verrerie de Bonan. Tous ces verriers, dont les familles dominantes sont les Colons et les Garniers, qui deviendront par la suite Granier ou Grenier, ne semblent pas tous avoir été qualifiés de nobles au début du XVe siècle. Ce n'est que dans la seconde moitié de ce siècle que la mention nobiliaire se généralise, peut-être suite à la diffusion des lettres patentes royales de 1445 qui accordaient des privilèges aux nobles exerçant le métier de verrier dans le pays de Languedoc. À cette première liste, on peut ajouter la présence de Bernard de Riols, dit le Cadet, qui est cité devant la justice prévôtale d'Albi en 1561 par les consuls de Mirandol pour un coup d'épée. En 1575, on trouve un noble François Colomb habitant à Montira. Même s'ils ne sont pas désignés explicitement comme verriers, il y a une forte probabilité qu'ils le soient. Le premier cité, Bernard de Riols, appartient à la grande famille des verriers de la Montagne Noire, d'abord établie à Dourgne et Arfon, puis aux verreries de Moussan. La famille du second donc, n'est plus à présenter. Donc, les verriers avaient un statut particulier qui leur a permis d'accéder à la noblesse, s'ils n'étaient pas nobles à l'origine. Bon, ça c'est un peu un sujet de controverse ou de discussion entre spécialistes. Et les lettres patentes donc, de Charles VII, données en 1445 sur les privilèges des verriers, sont aussi appelées Chartes de Sommières, du nom de cette petite cité du Bas-Languedoc, siège de la juridiction de tous les verriers de la dite province. Donc c'est pour ça que dans les textes après 1445, la notation de noble pour les verriers se généralise. Mais elle n'est pas systématique. On trouve des actes où ils sont qualifiés de maître verrier, mais pas forcément noble. Donc c'est à partir de cette date, grosso modo, que la notion de noblesse est systématiquement attribuée au verrier. Les textes font mention de l'art et science de verrerie. Donc comme art, le métier de verrier est manuel, mais il est aussi permis aux nobles de l'exercer sans déroger. Comme science, la fabrication du verre relève du secret de la connaissance des ingrédients, on pourrait dire presque de l'alchimie, très en vogue au Moyen-Âge. Et quelle meilleure façon de garder un secret, sinon de restreindre le nombre de personnes à le partager? C'est en substance ce que semble vouloir imposer ce document qui débute ainsi. Premièrement, que nul ne doit ni exhiber le dit art de verrier s'il n'est noble et procréé de nobles générations et de généalogie de verrier. Plus loin, il est précisé que nul maître de four, de verrerie, ni autre ne peut et ne doit montrer le diar à personne qui ne soit procréé de noble et ancienne génération et qui n'est justifié de noblesse par devant le viguier du dit Sommière, commissaire et conservateur des privilèges de toute la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes et pays de Languedoc. Alors, la seule concession à l'intégration de nouveaux membres est la suivante. Les enfants nobles issus de mariage d'un noble non verrier avec la fille d'un gentilhomme verrier peuvent devenir verrier. Donc en fait, le métier se transmet de père en fils et toujours dans les mêmes familles. La charte de Sommières accorde par ailleurs des exemptions fiscales sur les marchandises, leur production, mais aussi les matières premières comme la soude ou salicor, indispensables à l'élaboration du verre. Les verriers ont la liberté d'acheter tout le sable, la terre et le bois nécessaires à leur industrie. Mais comme nobles, ils doivent aussi le service des armes pour le roi, ou à défaut, ils doivent équiper un remplaçant. Cette juridiction de Sommières sur les verriers va progressivement s'étendre au gré des déplacements des verriers eux-mêmes et englober finalement l'étendue du ressort du Parlement de Toulouse et une partie de la Guyenne. En gros, de la rive droite du Rhône jusqu'à l'océan Atlantique et des Pyrénées jusqu'au sud de l'Auvergne.
Vous écoutez une conférence de Dominique Guilbert enregistrée par Bernard Rayet le 26 juin 2021 à la gare de Viaur à propos des verreries forestières dans la vallée du Viaur. Une conférence proposée par les associations Culture en Partage de Saint-Christophe dans le Carmozin-Ségala et Vivre à la gare de Viaur de Montirat dans le Ségala-Carmozin.
Alors, je vais vous parler de l'origine de la famille Filiquier et accessoirement la famille Borgnol. Même s'il existait déjà donc des verriers en Rouergue aux confins du Quercy et de la Luigeois, ceux qui vont s'établir dans la moyenne et basse vallée du Viaur ont une origine plus lointaine. Le premier rencontré donc est un certain Jacques de Filitier, à cette époque-là il s'appelle Filitier avec un T, qui est originaire de Mormoiron dans le diocèse de Carpentras. En 1553, il se trouve créancier de noble Jean de Colomb, qui est verrier de la Castelle, commune de Veyraux. C'est dans les gorges du Tarn, c'est à la limite de l'Aveyron et de la Lozère. Donc pour la vente de 15 quintals et demi de soude. Près de deux décennies plus tard, donc en 1571, ce même Jacques de Filiquier, qui cette fois-ci s'appelle Jacques de Filiquier, réside à Aurenque. Donc vous voyez, il vient de la région de Carpentras et s'établit au nord de l'Aveyron, à Aurenque. Donc une ancienne domerie. Site quelque peu isolé dans les gorges de la Coussane. Il est alors accompagné de sa famille, composée de plusieurs garçons, donc on connaît au moins 5 garçons, Pierre, Charles, Étienne, Barthélemy et Roland, et au moins une fille, Marguerite. Une autre famille de verriers fréquente la verrerie d'Aurenque, les Borgnols, qui viennent de plus loin, ceux-là, puisqu'ils ont une origine italienne. Ils viennent d'Altare, dans la province Savone, en Italie. Ce village de montagne situé dans l'ancien marquisat de Montferrat est presque entièrement tourné vers l'artisanat verrier. Les verriers y forment une véritable corporation qui règne aussi sur la gestion de la communauté villageoise. Les migrations nombreuses dans cette communauté concernent non seulement l'Italie, mais aussi plusieurs pays d'Europe, dont la France. Ces migrations sont le plus souvent temporaires, mais certains s'installent définitivement dans le pays hôte. C'est le cas de Jean Borgnol, qui se serait marié en 1575 avec Jeanne Bouchaine lors de son séjour à Aurenque. En 1582, donc, c'est déjà la troisième génération de Filiquier à Aurenque. L'aïeul Jacques fait donation de ses biens à son petit-fils homonyme, fils de son fils de Pierre, donc un de ses fils. Dans cet acte est cité Roland de Filiquier, frère de Pierre. Ce même Roland est parrain d'un fils de Jean Borgnol, né au Piboule en 1604. Alors le Piboule, c'est dans la moyenne vallée du Viaur, c'est commune de Sainte-Juliette-sur-Viaur. Au cours des années 1590, une partie de ces verriers quitte Aurenque et migre vers les gorges du Viaur. Étienne de Filiquier exploite une verrerie à Carsenac, Pays Ralès, lorsqu'il épouse en 1592 une jeune fille pupille, originaire du Piboule, dont les biens gérés par ses tuteurs ont été laissés à l'abandon, terre en friche, moulin en ruine. Son frère Barthélemy et Jean Borgnol, donc Barthélemy de Filiquier, hein, et Jean Borgnol s'installent aussi au Piboule à la même époque. Donc le premier achète une maison en 1594 et le second y bénéficie d'un bail à nouveau fief en 1598. Un autre Filiquier, celui qui nous intéresse, Charles, s'installe plus loin dans l'Albigeois à Montirat. Bien que la documentation soit déficitaire dans ce secteur, nous allons essayer de retracer son parcours professionnel et familial. Gentilhomme verrier qui épouse une demoiselle Marguerite de Bolle. Alors d'après Jean-Louis Degas, il faudrait lire d'Ebole, qui serait la forme occitane féminine d'Eble, de la famille noble donc d'Eble, d'origine rouergate. Bon, moi j'ai pas trouvé de preuves ni de pistes pour le confirmer. Donc Charles, c'est un des quatre enfants de Jacques. Donc c'est celui qui il s'installe dans la région, c'est difficile de dire quand, mais à fin 16e siècle, et on lui connaît au moins un fils et une fille. Donc le seul fils qu'on connaît, c'est Philibert, qui a une descendance assez nombreuse. Alors Charles de Filiquier, on sait qu'il avait une verrerie à la gare de Viaur, ici, entre 1510 et 1616. à Fompeyrousse, puis à La Connelier vers 1620. Il est décédé à l'abbesse en juin 1624 et il est inhumé dans l'église de Montira. Alors j'ai trouvé une anecdote là à propos de... C'est peut-être un lien avec les burettes. À propos de ce Charles de Filiquet, il y a eu un procès... il y a eu un début de procès entre le curé de la gare de Viorre, qui s'appelait Ginestel, et le verrier. Et c'est le verrier, Charles de Filiquet, qui avait porté plainte contre le curé pour des injures réelles. Alors je cite, hein, des injures réelles et verbales. Donc je suppose injures corporelles et verbales. Et après, comme beaucoup de procès à l'époque, ça se terminait par un compromis. Et peut-être qu'après, pour sceller, on va dire, la réconciliation, peut-être le curé lui a passé cette commande de burette. Voilà, bon, c'est une hypothèse. Alors l'abbé Cavaillé, qui a été curé de Mirandol, a découvert au début du XXe siècle un creuset de 37 cm de diamètre au mas de la Connelier, à une petite distance du village de Cazouls et du hameau de la Besse, non loin, par conséquent, de la rive du Viorre. C'est la citation. Une découverte plus récente concerne le produit de cet artisanat. Donc en 2002, à l'occasion de la restauration du retable de l'église de la gare de Viorre, le restaurateur a mis au jour des fragments d'objets en verre dans la maçonnerie des boiseries du XVIIe. Après nettoyage et reconstitution, donc à l'époque, il parlait de 4 petits récipients en verre qui ont pu être partiellement reconstitués. Enfin, vous verrez dans la vitrine, il semblerait que ça corresponde, qu'il y en ait plutôt que 3. Alors, 3 correspondent à des burettes liturgiques et le 4e à un pied douche. Enfin, ça, c'est ce qui est cité dans l'article de l'époque. Parmi les burettes, 2 formes se distinguent. La première est représentée par 2 exemplaires à long bec verseur en col de cygne et la seconde à une petite cruche dont l'ouverture est vasée et soulignée par un filet bleu intense et le col décoré d'un fin filet bleu en serpentin rapporté à chaud. L'extrême finesse, inférieure au millimètre de la panse de ces burettes, et le verre vert clair peu bulleux témoignent d'un savoir-faire bien maîtrisé. L'influence vénitienne de la burette bicolore est soulignée par les auteurs de la publication. Donc, c'était Madame Bertrand et Jean Vaquer. Hein. Ça date de 2011. Alors, l'origine géographique des Filiquiers, même si elle n'est pas confirmée pour la branche albigeoise, elle semble plus que certaine et... De toute façon, la rareté du nom ici, il n'y en a pas d'autre nom de Filiquet que cette famille, a priori. Donc, le fils de Charles, Philibert, fut verrier à Taillac en 1622 et à Lacoste en 1625. Donc, c'est paroisse de Santresse, donc en Rouergue, puis au Martinesque, paroisse de Meljac, dès 1629. Il travailla probablement avec ses cousins, entre guillemets, hein, parce que cousins à des degrés divers. À partir de 1640, il exploite une verrerie appartenant au seigneur Casillac de Sessac, donc dans la juridiction de Millars, au lieu dit les Amblards. Alors ça, je n'ai pas localisé exactement cette verrerie. Ses enfants y travaillaient, Philibert, vous voyez, il a eu 4 garçons, hein, Charles, Philibert, Jean et Pierre. Donc il a travaillé avec ses enfants, dont un certain nombre se sont mariés dans le village d'ailleurs. Alors le même Pierre de Philibert ou son fils homonyme, vint s'établir en 1648 près de Villeveyre, en Brouwergue, dans l'actuelle commune de Najac, donc où il y a eu une verrerie. Noble Jean de Bénabin, sieur de Marniac, lui loua une maison avec jardin, cave et hangar située dans le village de Cabirol pour établir une verrerie qu'il devait construire à ses frais. Le propriétaire bailleur fournissait au verrier le bois nécessaire au four de la verrerie, plus 12 charrettes de bois pour son chauffage personnel. En contrepartie, le verrier avait à charge la nourriture des bouviers. Le bail prévu initialement pour 5 ans ne fut pas achevé. En 1652, Philibert de Filiquet se trouvait en Quercy, à Belmont-Sainte-Foy, dans le Lot. Le loyer annuel était fixé à 250 livres tournois et comprenait la livraison de 12 grandes bouteilles et 4 douzaines de grands verres. Bon, j'ai fait cette carte un peu rapidement et pas très précise. C'est les verreries du secteur, donc en dessous Mirandol et la Guisardie. Il y a la Guisardie, Philibert y a habité et son fils Charles, donc probablement une verrerie. La Connelier, après c'est la Besse, je crois, et la gare de Viorre. Donc, bon, il y en a certainement eu plus que ça, mais bon, comme je vous dis, dans la région, la documentation est assez pauvre. Cette branche Filiquier a abandonné le verre finalement assez tôt. Après être parti à Millars, les descendants sont devenus cultivateurs. S'il y a un descendant qui a été Pierre de Filiquier, qui a été en Grésigne, à Merlin, justement, où il a été condamné par les eaux et forêts à l'époque de la Réformation en 1666, parce qu'il avait utilisé du bois de la forêt royale, donc ce qui était défendu. C'est ce que j'ai trouvé dans le compois de Montyran. Donc ça, c'est Charles, le petit-fils du premier Charles, qui habitait à Montyran. Il se faisait appeler Sieur de la Valette. Et donc il avait une maison de 16 cannes à Montyran, un jardin et travers à Alroucas, un castagnal et bois à Alpaïsel, un cabanal à Gaffetou et une terre à la barrière Nolt. Alors les toponymes sont en occitan, bien sûr. Hein. Et une vigne et terre à Traverse, à côté du ruisseau de la Valette. Donc en fait, comme beaucoup de verriers, ils se faisaient appeler sieur de quelque chose. Ils n'étaient pas seigneurs. C'est souvent un toponyme, un micro-toponyme, parce qu'ils avaient une propriété voisine.
Vous écoutez une conférence de Dominique Guilbert, enregistrée par Bernard Rayet, le 26 juin 2021, à la gare de Viaur, à propos des verreries forestières dans la vallée du Viaur. Une conférence proposée par les associations Culture en Partage de Saint-Christophe dans le Carmozin-Ségala et Vivre à la gare de Viaur de Montirat dans le Ségala-Carmozin.
Donc je vais vous parler maintenant d'une façon un peu plus générale du fonctionnement d'une verrerie. Donc à cette époque, il y avait trois types de verreries. Des ateliers créés dans un bâtiment existant ou dans la cour d'une ferme. Moi, j'ai trouvé ça dans l'Aveyron, notamment à Taillac, Clapiès, Trescos. Ce sont des lieux dits. Hein. Il y avait des ateliers aussi qui étaient familiaux, quoi, qui étaient propriété du verrier, notamment à Magrinet, Noyès et Fombonne. Magrinet et Fombonne, c'est commune de Centresse, et Noyès, c'est commune de Camboulazé. D'ailleurs, le propriétaire à Noyès, j'ouvre une petite parenthèse, il y a une maison qui s'est vendue il y a quelques années, là, et le nouveau propriétaire, et on lui a dit que c'était la maison la plus ancienne du village, et que c'était même peut-être la maison du verrier. Et figurez-vous que l'année dernière, il a trouvé dans sa cour, en grattant, il a trouvé le four du verrier. Donc il y aura certainement des fouilles archéologiques prévues, là. Alors, c'est peut-être pas le four initial, parce que ce site, en fait, il est rentré dans la famille Borgnol par mariage, mais il a été réutilisé jusqu'au 19e siècle par des verriers ariégeois. Enfin, d'après la structure de ce qu'il a dégagé, là, ça ressemble beaucoup au four de Salines dans l'Aude. Vous regarderez sur Internet, verrerie de Salines, ça s'appelle le domaine de l'eau salée, je crois. C'est l'association Capricorne. Il y a un très beau four verrier qui a été fouillé par Isabelle Commandré avec une structure particulière. Et ce four de Noyès, là, il ressemble beaucoup à ce four-là. Sauf qu'il est, bien sûr, il est en moins bon état. Bon, je ferme la parenthèse. Et après, il y avait les ateliers forestiers, donc les plus nombreux, des ateliers éphémères qui sont souvent plus tardifs et qui sont en fond de vallée. Donc, il y en a, vous avez vu sur la carte, ils sont tous pratiquement le long des ruisseaux, au bord des ruisseaux. Alors, ils ont en commun un facteur limitant à leur activité, l'approvisionnement en bois de chauffe. Il fallait installer évidemment les fours à proximité des forêts, sinon les frais de transport auraient englouti tous les bénéfices. Dans tous les cas, il ne faut pas perdre de vue aussi qu'une verrerie est une structure plus ou moins autonome, donc avec une halle et un habitat et des cultures, dont des prés pour les bêtes de somme, des jardins, voire des terres cultivables pour la nourriture des familles. Même quand ils sont en fond de vallée, ils résident souvent sur place. La description qu'en a fait l'historien aveyronnais Amance Alexis Monteil rend parfaitement compte de la réalité de ce que furent ces ateliers forestiers. Alors je le cite, « Rien de si misérable que cet atelier, c'est un carré de murailles basses et grossièrement maçonnées sur lesquelles porte une couverture faite de perches et de genêts. Au milieu se trouve le four, dont la construction diffère de ceux à la française. Il est de terre glaise, le tisard ou foyer en traverse tout le diamètre. Au lieu de chambre de refroidissement, on a élevé à côté du four un terre-plein sur lequel est une espèce d'aqueduc dont l'orifice est placé vis-à-vis des ouvreaux. C'est là que sont déposés les verres qui sortent des mains de l'ouvrier et à mesure qu'ils se refroidissent, on les tire par l'orifice opposé au moyen d'un crochet de fer. Dans les verreries donc les plus perfectionnées, on a différents types de fours. On a évidemment le four de fusion, dans laquelle est élaborée la matière vitreuse et qui sert à la fabrication par prélèvement d'une paraison et soufflage à travers une canne. Le four de recuit, donc il est indispensable à la solidité des pièces fabriquées, le plus souvent présent sous forme d'arche, comme c'était le cas dans la citation précédente, une arche attenante au four précédent. Donc sur cette gravure médiévale, justement, on voit toute la chaîne de fabrication. Donc vous avez tout en haut des gens qui prélèvent du sable, qu'ils portent dans des sacs. Vous avez les arbres qui sont représentés. Vous avez la verrerie, donc avec le four qui a abrité de la pluie. Donc le four de fusion au centre, enfin sur la droite, et l'arche à recuire sur la gauche, justement, où vous voyez les verres qui sont déposés et qui sont retirés au fur et à mesure qu'ils se refroidissent. Et donc, sous la chambre des pots, il y a le tisard, bien sûr, le foyer. Vous avez quelqu'un qui entretient le bois, qui met du bois. Et en fait, ça traversait le four. D'un côté, on mettait le bois, de l'autre côté, on retirait les cendres. Il peut y avoir un troisième type de four, le four de frittage, qui est une étape de préparation de la matière. Après, ce type de four n'a pas été généralisé partout. Enfin, c'est difficile dans les fouilles de le mettre en évidence. Moi, j'ai trouvé dans les écrits aussi qu'ils pouvaient utiliser des fours à pain, mais je pense que c'était pour chauffer les blocs de quartzite, puisque la matière première, en fait, dans la vallée du Vior, c'est le quartzite. Ce sont ces gros blocs qui sont blanchâtres, vitreux. Donc, on les faisait chauffer à de hautes températures, et après on les plongeait ou on les arrosait d'eau froide pour les briser. Donc le choc thermique brisait les blocs, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'étonnement. Alors bon, donc là, le principe du four, vous avez donc deux voûtes, une sole horizontale sur laquelle les pots sont déposés, une autre voûte. Alors, tout ça, c'était c'était construit en schiste et argile, et maçonné à l'argile. Donc il y avait des ouvertures dessus chaque pot, donc les ouvreaux, pour prélever le verre. Voilà, d'un côté, donc on alimente en bois, et de l'autre côté, on retire les cendres. Dans certaines verreries où le four de recuit était séparé, où il y avait un four secondaire, en fait, ils récupéraient les braises du four de fusion pour réchauffer le four de recuit. Alors, je vais vous montrer quelques photos de vestiges de four dans la vallée du Vior. Ça, c'est le four de la forêt du Lagasse, la forêt de Maniale du Lagasse. Vous voyez les traces de peau sur la droite, là, et les débris, ce qui est verdâtre, c'est le verre, en fait. Hein. Là, ce sont deux autres fours dans la vallée du Vior aussi. Vous voyez, il reste que ça. Hein. Il reste la sole et la landier dessous, quoi. Alors ça, ce serait le four de recuit de la verrerie de Combenègre, commune 113. Alors la partie supérieure, elle n'était pas comme ça. Hein. Ils ont rajouté des pierres en fait pour éviter après la fouille que ce soit pillé. Alors, vous avez une vue intérieure. Vous voyez, c'est pas un four de fusion parce que les fours de fusion, là on voit que les pierres sont très peu. Il n'y a pas de traces de coulure de verre, etc. Après, ça c'est un four que j'ai trouvé dans une forêt. Alors ce four est un peu original aussi parce que c'est pas un four de fusion, c'est sûr, puisqu'il y a une seule ouverture, il n'est pas traversant. Par contre, là, il y a des coulures de verre. Alors, c'est peut-être un four de frittage, celui-ci, parce qu'il y a eu des coulées de verre. Donc, il y a eu quand même une température intense. Alors, en fait, dans l'opération de frittage, pour faire du verre, on l'a dit, de la matière première siliceuse, le quartzite, mais aussi il faut des fondants, hein, puisque la silice pure fort à 1720 degrés et les températures des fours forestiers, ils étaient de l'ordre de 1250-1300 degrés. Donc, ils ajoutaient des fondants. Et le fondant utilisé ici dans toute la région, c'est fondant sodique. C'est ce que les textes appellent le salicor, qui est élaboré d'ailleurs à partir de la plante salicorne. C'est une plante qui était cultivée à l'époque pour faire de la soude, justement, dans toute la côte méditerranéenne, de Narbonne jusqu'à Gomorte, je pense. Et donc c'était commercialisé par des marchands. C'était vendu sous forme de blocs ou de rocs de salicor. Ils employaient aussi du verre cassé, le groisil, qui facilitait aussi la fusion du verre. La source de silice dont on l'a dit, employée dans les gorges du Vior, c'est le quartzite. Alors c'est un quartz opaque de couleur blanchâtre qui se retrouve fréquemment identifié dans la microtoponymie cadastrale, comme les noms Peyralbe, roc blanc, et de façon plus explicite encore, dans roc verrière, donc un terroir du cadastre ancien de Sainte-Juliette-sur-Vior. Donc voici le quartzite. Ça c'est un bloc de quartzite que j'ai trouvé tel quel sur un site où il y avait un four. Alors le four, il n'y a plus rien, hein, ça a été transformé en champ, mais il y avait encore quelques blocs de quartzite qui traînaient. Ils utilisaient des fours à pain, mais pour faire du pain, mais accessoirement, parce que ça leur évitait, notamment quand il y avait des verreries dans des fermes, ça leur évitait la construction d'un four supplémentaire. Donc la réduction en poudre des cailloux et blocs de quartzite se fait en deux étapes. Donc la première consiste à chauffer au rouge les blocs de quartzite, puis de les jeter dans l'eau froide. C'est le procédé de l'étonnement qui brise spontanément les blocs en miettes. Ensuite, la réduction en poudre se fait de façon mécanique, soit manuellement, à l'aide d'un maillet sur une plaque de fer, comme ici, là, soit au moyen d'un martinet mu par la force hydraulique d'un moulin. C'est pour ça qu'il y a quelques verriers qui étaient propriétaires de moulins. Ils s'en servaient pour broyer le quartzite. J'ai même trouvé dans la vallée de la Sorgue, dans l'Aveyron, un contrat passé entre un verrier et un meunier pour qu'il transforme son moulin en martinet pour broyer la pierre et qu'il la tamise comme pour la farine, c'est précisé. Donc, il est exigeant. Hein. Oui, en poudre, réduire en poudre carrément. C'est sûr que c'est pour ça que quand on trouve dans des fonds de creuset, souvent, normalement, il devrait y avoir que du verre. Mais on trouve souvent des impuretés parce qu'il y a des morceaux de cailloux qui n'ont pas été suffisamment broyés. Et évidemment, comme ils sont lourds, ils restent au fond du creuset.
Vous écoutez une conférence de Dominique Guilbert enregistrée par Bernard Rayet le 26 juin 2021 à la gare de Viaur à propos des verreries forestières dans la vallée du Viaur. Une conférence proposée par les associations Culture en Partage de Saint-Christophe dans le Carmozin-Ségala et Vivre à la gare de Viaur de Montirat dans le Ségala-Carmozin.
La coupe et le transport du bois sont effectués par des salariés recrutés dans le milieu rural des environs. Le tiseur qui assure l'entretien du feu sous les ordres du maître verrier est souvent c'est un roturier, hein, c'est pas des nobles. Les verriers ne s'occupaient que de souffler le verre. Ils avaient des salariés ou des domestiques pour toutes les autres tâches. Et la préparation des matières, sable, cailloux, lavage du verre cassé, groisil, etc. et confiés donc aux domestiques du verre. Éventuellement, la famille participait aussi. Toute la famille participait à l'activité de la verrerie, hein, que ce soit les enfants ou. La composition du mélange vitrifiable, le soufflage et le façonnage du verre sont réservés aux gentilshommes verriers. C'est pour ça qu'il y a eu, dans l'Aveyron, en 1732, il y a eu une condamnation de deux verriers de la famille Bourgnol et Bertin, parce qu'ils avaient employé dans leur verrerie, et donc ils devaient faire des choses qui étaient réservées aux verriers, certainement. Ils avaient employé des roturiers, et donc ils ont été condamnés à une amende. Alors il y avait deux infractions, il y avait celle-ci, l'emploi de roturiers, et il y avait dépassement du temps de travail, du temps annuel, parce que pour réserver les ressources et pour ne pas faire de concurrence non plus entre avec les autres sites verriers, la période de travail était de 8 mois au XVIIe siècle, donc du 1er septembre qu'à fin mai, puis après ça a été réduit à 6 mois pour économiser les ressources en bois aussi, parce qu'au XVIIIe, il y a une poussée démographique, donc il y a une utilisation du bois, le bois commence à manquer. C'est pour ça qu'en Bas-Languedoc, d'ailleurs, les intendants ont voulu envoyer les verriers du Bas-Languedoc, ils voulaient les envoyer sur les Gouales là-bas pour souffler le verre, parce qu'ils avaient décimé toutes les forêts autour de Montpellier, quoi. Donc l'organisation du travail dans une verrerie, donc il y a les verreries familiales bien sûr, comme à Magrinet. Il y a les associations entre verriers, sociétés de verriers, donc où ils partagent les pertes et profits. Saint-Quirin dit que c'est général, mais en fait ça dépend peut-être des régions, mais dans l'Aveyron, j'en ai trouvé que deux associations, une petite entre deux frères, et après une plus conséquente où il y avait cinq ou six verriers associés. Sinon, il y a souvent, ils employaient soit des verriers salariés, soit il y avait le système de location de place. Alors pour les salariés, donc, par exemple, André Audouy est embauché en 1679 par les fers bretons pour une période de 8 mois pour un salaire mensuel de 24 livres. Et après, il y avait la location de place, c'est-à-dire la location d'un ouvreau. Cela revient au droit d'utiliser un ouvreau du four à son usage particulier. Donc André Audouy loue deux places de son four de Pentezac, commune d'Alrance, aux frères François et Étienne de Bertin en 1688. En contrepartie, les locataires paient chacun un loyer mensuel de 15 livres. Dans ce loyer est compris le logement, équipé d'une cheminée et d'un chaudron pour leur pitance. Le bailleur leur fournit aussi les outils nécessaires. Les outils nécessaires. En revanche, ils doivent se procurer à leurs frais les matières pour faire le verre, c'est-à-dire la silice et le fondant. Donc en fait, ils ne font qu'utiliser la chaleur du four, ils les amènent à leur matière première et ce qu'ils fabriquent leur appartient. Alors le recrutement de la main-d'œuvre se fait de différentes façons. D'abord, Le travail du verre se fait essentiellement en famille. On a vu le cas de Philibert de Filiquet, là, quand il était dans la forêt de Mignars, qui travaillait exclusivement avec ses enfants. Enfin, je n'ai pas trouvé trace d'autres verriers, donc je pense que c'était le cas. De toute façon, ça faisait 4 enfants plus le père, 5, ça fait déjà... Les fours n'étaient pas gros à l'époque, il y avait une personne par ouvreau, par place. Donc les fours sont en moyenne de 5-6 ouvreaux. Lorsque les effectifs sont suffisants, on a recours à des verriers des autres secteurs. Donc les plus jeunes aussi vont souvent faire quelques campagnes loin de chez eux pour se perfectionner ou apprendre d'autres techniques, voir quelques secrets de fabrication. Donc les verriers de la moyenne vallée du Vior, par exemple, certains sont allés travailler aux verreries de Moussan. D'autres sont allés travailler en Grésigne. Des gens de Grésigne sont venus travailler dans la vallée du Vior. Il y avait des échanges comme ça. Donc il existait à l'époque moderne un véritable réseau de centres verriers dans lequel circulaient verriers et marchands verriers. Oui, les marchands verriers pouvaient venir de loin. Par exemple, en Montagne Noire, on trouve fréquemment des verriers qui viennent de l'Ariège. Pourquoi ? Parce que d'abord... Les verriers de la Montagne Noire, les Robert, ils ont essaimé en Ariège. Donc il y a une partie de la famille qui est sur la Montagne Noire et une partie qui est dans l'Ariège. Et les verriers, ils font tout le circuit, ils font le tour des secteurs verriers, notamment quand ils travaillent avec la même famille. Si le verrier se déplace, le marchand verrier se déplace aussi. On peut citer le Languedoc avec le Causse d'Ortus, le Haut Languedoc avec Fourtou, Moussan, la Grésigne est plus éloignée, les gorges de la Serre, la Margeride ou le Bazadet. Le Bazadet, c'est en Gironde. Hein. J'ai trouvé dans l'Aveyron des verriers qui venaient pratiquement du Bazadet. Il y en a qui venaient de Montflanquin, Lot-et-Garonne, je crois. Il y en a qui viennent d'assez loin. Et j'ai trouvé aussi que les verriers de la vallée du Vior, il y en a qui sont partis travailler le verre en Haute-Loire, à l'époque dans le Velay, en Provence, il y en a même un qui s'est marié en Provence, et après ils sont finis verriers à Marseille. Donc c'est un métier où on bouge pas mal quand même. Donc rapidement, les assemblées de sommières vont réduire le temps annuel de travail sous la pression des États du Languedoc, notamment, alors qu'ils restent libres en Provence. Les campagnes donc, de travail passent ainsi de 8 mois au cours du second 17e siècle à 6 mois et demi au second 18e siècle. Alors le commerce du verre, donc là aussi c'est précisé dans la charte de Sommières. Hein. Donc les règlements de Sommières imposaient de vendre la production à des marchands et interdisaient aux verriers le commerce de détail. C'est pour ça que les marchands se déplaçaient et venaient acheter directement dans les verreries. Alors il y avait les marchands, on va dire en gros, et il y avait aussi les marchands locaux, souvent issus de la paysannerie, et qui faisaient de la vente du colportage, qui faisaient de la vente occasionnelle, comme ça... pour arrondir leurs revenus. Et dans ces familles, il y en a certains qui se sont spécialisés. Il y en trouve des marchands qui sont issus de milieux agricoles, donc ont fondé des petites dynasties de marchands verriers. Les principaux marchands verriers se trouvaient dans les villes, mais rapidement, un certain nombre de petits marchands ont émergé de la société rurale locale et des familles de marchands verriers se sont constituées pendant plusieurs générations. La plupart des transactions sont passées sous scène privée dans les livres de raison des marchands ou des verriers ou sont consignées chez le notaire parce que la vente est faite à paiement différé, le temps d'écouler une bonne partie de la marchandise. Après, bon, tout ce qui est paiement comptant, évidemment, ça ne laisse pas de traces, mais enfin, c'est assez rare. Il y avait aussi des marchands qui passaient des commandes, c'est-à-dire ils allaient dans les verreries en début de campagne, ils passaient un accord de commande, ils commandaient tant de quantités qui devait être livré soit mensuellement ou trimestriellement et réglé régulièrement. Donc ça assurait pour le verrier des revenus plus réguliers. Et puis le marchand, au moins, il se réservait presque le monopole de la production, quoi, en passant ce genre d'accord. Donc en 1673, Jean Flotte, qui est marchand de verre à Reyré, s'engage à acheter à David de Breton de Saint-Félix-de-Sorgue la quantité de 300 faits de verre, dont 200 de fin et 100 de commun, et sur ces 300 faits, il doit prendre 6 quintaux de bouteilles ou flacons à raison de 40 sols le fait, ce qui fait un total de 600 livres tournois. Alors à quoi correspond un fait ? La réponse nous est donnée indirectement par un second contrat de 1683 dans lequel Jean Magnaval, qui est marchand verrier de Légonie, passe commande de 200 grosses de verre, dont 180 de commun et 20 de fin à raison de 10 sols la grosse. Donc en fait, la grosse correspond à 25 verres, ce qui revient en tout à 100 livres. Donc si les prix sont identiques dans les deux cas, on peut en déduire que 4 grosses de verre donc équivalent à un fait, soit 100 livres. Donc un fait, c'est 100 livres, en fait. F-A-I-X, un faïs en occitan, si vous voulez. Mais en fait, c'est un terme pour désigner, qui est employé par les notaires, pour désigner justement cette quantité de marchandises. Ça correspond à une centaine, en fait. Et la grosse, ça correspond à 25 unités. Alors, souvent, justement, il y a confusion dans les écrits, parce que la grosse au 19e siècle, c'est 12 douzaines. Alors, quand il y a des gens, je vois des écrits où ils parlent, notamment en Ariège, où ils parlent de grosse, ils donnent la quantité de 12 douzaines. Ça correspond à 12 douzaines, ça fait 144. Hein. Entre 25 et 144, il y a un écart énorme. Ça veut dire que si c'était vraiment 12 douzaines, le verre valait rien à cette époque-là. Non seulement il valait rien, mais en plus, s'il l'avait payé à ce prix-là, il serait ruiné. Hein. Donc en fait, il faut faire attention souvent aux unités et aux termes. Ils n'ont pas le même sens actuellement que sous l'Ancien Régime. Alors la grosse, c'est utilisé un peu partout. C'était utilisé aussi en Auvergne, mais en Auvergne, elle n'avait pas la même définition. La grosse était de 26 verres au lieu de 25. Bon, ça fait qu'une unité de différence. Alors pourquoi 26 en cas de casse pour que... Alors voilà les fameuses burettes que vous verrez dans la vitrine. Donc celle-ci, c'est celle qui est colorée en bleu. Le liseré qu'on voit sombre là au niveau du bec verseur. Alors le bleu était obtenu avec du manganèse. Voilà, c'est plus joli en couleur. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, donc je pourrais vous dédicacer mes livres à l'issue de la conférence.
Vous écoutez une conférence de Dominique Guilbert enregistrée par Bernard Rayet le 26 juin 2021 à la gare de Viaur à propos des verreries forestières dans la vallée du Viaur. Une conférence proposée par les associations Culture en Partage de Saint-Christophe dans le Carmozin-Ségala et Vivre à la gare de Viaur de Montirat dans le Ségala-Carmozin.
Donc je vais conclure. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au 18e siècle, alors que la démographie augmente, les effectifs de verriers n'augmentent pas pour autant, soit parce que plusieurs restent célibataires, soit parce qu'ils abandonnent tout simplement cette activité assez peu rémunératrice, soit encore parce qu'ils s'en vont ailleurs. Donc la situation est aggravée par la Révolution de 1789 qui abolit les privilèges et donc le monopole des familles de nobles verriers. Donc pratiquement, l'activité à partir de la Révolution... elle disparaît presque. Cependant, après l'extinction du dernier four, donc probablement à Taillac pour l'Aveyron, un nouveau venu, Jean-Baptiste Colomb d'Elsuc, issu d'une famille noble de verriers Rouerga établie en Quercy, reprend l'artisanat verrier vers 1810 dans la commune d'Alrance. Et c'est certainement celui qui a construit le four qu'on a vu, le premier, de la forêt du Lagaste. Donc deux fours ont été trouvés dans ce secteur qui lui sont attribués, celui du Lagaste et celui du bois de la Devèze, mais ce dernier a été récemment entièrement détruit. Après la Révolution française, donc, alors que la Révolution française avait anéanti les privilèges et corporations d'artisans, entraînant la fin de l'activité verrière en Rouergue, la découverte d'une reprise de l'activité verrière dans les gorges du Viaur, au Moulin d'Aire, à Combenègre et à Noyès, par des verriers ariégeois, entre 1827 et 1845, fut pour moi une véritable surprise. En Grésigne, quelques fours fonctionnent après la Révolution. Celui du Sauze, tenu par la famille de Suère, et celui de Haute-Serre, vendu en 1816 par Paul Robert, dit Angély, de la famille des Robert d'Angély, à Joseph Robert, fils de paysan natif de Centresse, et son fils Jean-Mathieu Robert, qui fut magistrat à Gaillac, il céda la verrerie d'Haute-Serre par testament à son ami Paul Reynaud, qui fit transférer la succession à son frère Auguste. Et cette verrerie d'Haute-Serre cessa son activité en 1851. Alors, pour la première question, d'abord, il y a un livre qui a été écrit sur les verriers de la Haute-Auvergne par Tristan Busset. Donc là, on retrouve effectivement les mêmes familles, hein, les Robert, les Colons, les Rioles, il doit y avoir des Greniers aussi, je me souviens, les Filiquiers bien sûr. Mais après, c'est toujours pareil, bon, pour trouver l'ancêtre commun, c'est difficile. De toute façon, cette activité, elle s'est transmise dans les mêmes familles déjà depuis le Moyen-Âge. Hein. Vous avez vu En 1400, déjà, les colons étaient verriers. Donc, c'est très difficile d'établir les liens parentaux. Mais bon, c'est sûr que ce sont les mêmes familles. Après, pour ce qui est de la typologie des vers, ben, en dehors de l'archéologie, c'est difficile d'avoir des catalogues de formes. Après, dans les textes, il y a très peu, vous avez vu, il y a un texte qui parle de vers, il parle de vers fins et de vers communs. Et après, description, il n'y a pas plus. Flacon, bouteille, grand verre. Il y a d'autres textes qui peuvent employer d'autres termes, mais souvent des termes anciens qui n'ont plus d'équivalent actuel. Donc c'est difficile de savoir à quoi ça correspond. Et quant au commun des mortels, la vaisselle de verre n'était pas très répandue. Au départ, c'était un produit de luxe, le verre. Après, ça s'est démocratisé, on va dire, mais c'était quand même... Au Moyen-Âge, c'était plutôt réservé à la noblesse. Hein. La noblesse, l'église, etc. C'était pas un produit courant. Ça, c'est devenu plus courant à partir du 17e, justement, où je pense où il y a eu davantage de verriers. Donc là, ça s'est répandu un peu plus... Il parle de sortes de carafes avec des languettes de métallique pour étalonner la bouteille. Par exemple, dans un texte que j'avais trouvé aussi dans la vallée de la Sorgue, on parle de poron aussi. Le poron, bon, après, c'est le poron catalan, donc on imagine que c'est la même forme, que ça existait déjà.
Nous arrivons au moment des questions du public. La première concerne les relations parfois conflictuelles entre les verriers.
Ceux qui ont été condamnés, là, ceux du Vior, ils ont été condamnés. Le représentant des verriers, je trouve plus le terme. Enfin, ils avaient des représentants et c'était un grenier de la Grésigne qui était représentant de. Et c'est lui qui a fait condamner les verriers du Vior. Après, est-ce que je ne sais pas si c'était par jalousie ou c'est... Après, bon, cette histoire, ce que vous dites là, au 19e siècle, mais c'est plus récent. Effectivement, ce Joseph Robert qui avait racheté la verrerie d'Auxerre avait envoyé une pétition au préfet de l'Aveyron, justement, contre les verriers ariégeois qui faisaient du verre et qui lui faisaient concurrence. Mais bon, là, c'est plus récent et là, effectivement, c'est avéré. Ouais. Oui, je ne sais pas si c'est un lien avec le régime politique. Enfin, toujours est-il que, bon, de toute façon, c'était très sporadique, hein, même... Au 19e, c'était des campagnes de quelques semaines, alors qu'avant, ça durait plusieurs mois. Là. Ils sont venus pour quelques semaines, d'ailleurs, je me demande si c'était rentable. Venir de l'Ariège, travailler quelques semaines. Mais bon, ici, ça commençait bien plus tôt, hein, puisque la verrerie de Carmaux date des années 1752. Pardon.
La deuxième question concerne les techniques du travail du verre.
Alors, il n'y avait que du verre creux. Alors, le verre plat, il y a une exception, c'est le verre plat de la Montagne Noire, fait par des chartreux de Castres qui ont fait venir des verriers lorrains, enfin, d'origine lorraine, parce qu'en fait, ils ne venaient pas spécialement de Lorraine. Mais... Donc, les familles Thiétry, principale famille, c'est des familles d'ailleurs qui travaillaient ensemble, qui étaient associées. Il y a trois familles et Thierzac, je crois. Et c'était des familles qui avaient passé un accord de famille, de secret de famille. Ils ne devaient pas transmettre leur secret en dehors de ces trois familles. Donc la fabrication du verre plat, c'est vraiment pas une spécialité languedocienne. Hein, c'est... D'ailleurs, on dit que le verre plat a été inventé par Philippe de Caqueret, qui est un Normand. Donc c'est plutôt le nord de la France. Ah, mais ça, c'est une autre technique aussi. Les vitraux, le verre coloré... Il y a aussi de la peinture sur verre. Hein. Après, il y a de la peinture sur verre et après, on fait cuire. C'est pas de la peinture, c'est comme ça se fait actuellement. Pareil, hein. On utilise des minéraux qui ont une certaine couleur. Et quand on recuit le verre, ça, des fois, il change de couleur d'ailleurs et il s'imprègne un peu dans la masse. Quoi. Alors, on faisait aussi des... Enfin, ici, j'en sais rien, mais à Moussan ou aussi dans le Tarn, j'avais trouvé justement des bertins. Des Bertins du Sud-Aveyron qui avaient passé un accord avec un roturier pour faire des bagues de verre en couleur à Mazuguiès. C'est écrit dans mon livre, là. Marqué des bagues. Après, d'ailleurs, ils appelaient ça, la verrerie, une bagassière, hein, comme la verrerie s'appelait une verrière en occitan.
Autre question à propos de l'activité verrière à la gare de Vior et aux environs.
Ben, la gare de Vior... J'ai dit, bon, 1610, 1616. Après, je ne sais pas, il y en a peut-être eu d'autres. Quand ils sont revenus de Millars, bon, ils sont restés à Millars presque 8 ans, je crois. Certains ont pu faire du verre ici, mais il y a très peu de documentation écrite dans ce secteur, donc je n'ai pas trop d'informations. Après le 17e, je crois qu'il n'y a plus de verriers dans cette branche. Hein. J'ai cité bon, des verriers plus, évidemment plus anciens du 15e siècle. Il y a quand même eu une activité verrière, et semblerait, au XVIe siècle, puisque j'ai cité François Colomb et Bernard de Riolz. Bernard de Riolz, qui est très probablement le verrier de Moussan, qui a eu des démêlés avec Mirandol pour un coup d'épée. Donc s'il était dans le secteur, il devait certainement être verrier et travailler dans le secteur. Parce que ces Riolz, ils ont quand même... on a retrouvé récemment, là, j'ai trouvé un acte le plus ancien sur cette famille de 1472 sur Dourgne. Et donc ils sont originaires, comme les Robert, de ce secteur. Et après, ils ont racheté à la famille Almouy, ils ont racheté les verreries de Moussan, qui étaient des verreries nobles en plus. C'était des terres nobles. Mais ils ont travaillé un peu partout, puisque je les ai retrouvés. J'en ai trouvé des Riolz à Seille, dans l'Hérault, et dans le secteur de Joncel, Seille-Joncel. Là, c'est un secteur qui appartenait à l'abbaye de Joncel. Souvent, je pense que les verriers, ce sont les abbayes, souvent, ou les riches seigneurs qui les ont fait venir pour exploiter leur bois, pour tirer des revenus supplémentaires, quoi. Après, ailleurs, je ne sais pas. Après, bon, dans la moyenne vallée du Vior, souvent, les bois qu'ils achetaient, c'était des particuliers, des paysans. Il n'y avait pas de bois dans ce secteur, il n'y a pas de forêt royale. Donc, ils achetaient à des particuliers. Bon, ils avaient leur propre bois, mais c'était vite épuisé, hein, à moins d'être... Ils n'étaient pas très riches, souvent, donc... Donc, ils achetaient dans les bois du voisinage. C'est pour ça que quand il n'y avait plus de bois autour de leur verrerie, ben, ils allaient faire un four ailleurs, un endroit... Au fond de la vallée, parce qu'il y a besoin d'eau, et puis le bois, c'est plus facile de descendre que de le remonter.
Que sait-on de la place des femmes dans la corporation des verreries forestières et de la transmission des techniques?
Ben, on m'a posé la question s'il y avait des femmes qui étaient verriers. A priori, non. Par contre, des femmes, alors des veuves souvent pouvaient gérer la verrerie, puisque bon, le chef de famille, c'était à l'époque, c'était l'homme. Hein. Mais quand les veuves pouvaient être chef de famille, et donc souvent... j'ai trouvé des verreries qui appartenaient à des femmes, parce que une ou deux fois, parce que c'était des veuves, mais elles ne travaillaient pas à la verrerie, mais elles devaient la gérer, puisqu'elles étaient propriétaires de la verrerie. Mais les gendres, s'ils étaient verriers, ils travaillaient. S'ils étaient roturiers, ben, ils ne pouvaient pas, déjà. Et après, théoriquement, le gendre lui-même ne pouvait pas, il fallait que ce soit ses enfants. S'il n'était pas fils de verrier, il fallait que seuls ses enfants. Ça, c'est la théorie, parce que...
Question sur le bois pour chauffer les fours.
Le bois, en fait, mieux il était débité, mieux ça brûle. En fait, il faut pas utiliser la chaleur des braises, il faut utiliser la flamme. Donc il faut le débiter le plus fin possible. Des fagots, c'est le mieux. Ouais. Si vous avez vu sur la miniature là, du 15e siècle, vous avez le bois en fait, qui est empilé en billettes là, en face le four pour sécher. Des petits diamètres. D'ailleurs, bon, il brûlait tout, les broussailles. Il fallait de la flamme. Ouais. Donc un bon tirage. Voilà, donc j'ai amené quelques exemplaires de mes livres, s'il y a des gens intéressés. Alors, bon, le livre le plus documenté, évidemment, c'est celui sur l'Aveyron. Après, sur le Tarn, pour l'instant, ce sont que des généalogies, mais des généalogies des verriers. Donc, il y a quand même il y a les dates, les localisations. Et...
Le protestantisme, question de la relation des verriers à la religion.
Les verriers protestants, oui, il y a des verriers... Il y a peut-être une majorité de verriers qui étaient protestants dans certains secteurs. Mais après, j'ai remarqué que les verriers, même les protestants, ils étaient un peu opportunistes. Dans les endroits, quand ils émigraient, notamment j'en ai trouvé dans le Tarn-et-Garonne, du côté à Bouillac, des verriers qui étaient d'origine protestante, ils sont devenus catholiques. Mais bien avant la révocation de l'édit de Nantes. En fait, c'est un peu lié au milieu. Par exemple, dans l'Aveyron, la même famille, par exemple les Bertins, ceux qui sont restés dans le sud... Déjà, la famille Bertin, elle était un peu, je dirais, elle était un peu mixte. D'ailleurs, c'était difficile de savoir s'ils étaient protestants ou catholiques. Ce qui fait qu'en fait, il y a une branche qui est partie dans la vallée du Vior. Ceux-là, ils sont restés catholiques. A priori, ils étaient catholiques quand même. Et ceux qui sont restés avec la famille Breton, qui était protestante, qui sont restés dans la région de Brusque-Camarès, qui est une région protestante, ils sont devenus protestants. Donc en fait, je dirais qu'ils s'adaptent au milieu, quoi. Après, c'est vrai que dans le Tarn, il y a quand même la famille Robert, c'est une famille essentiellement protestante. Après, dans des familles, ça dépend, il y a des branches, il y a les deux. Les Riol, c'était une famille protestante à l'origine aussi. Bon, après, il y a une branche qui est restée protestante, une seule, la branche aînée, qui était propriétaire de Moussan. Et les autres, après la révocation, sont devenus catholiques, comme un certain nombre de membres de la famille de Robert, d'ailleurs. Voilà, ben, je vous remercie.
Merci à Dominique Guilbert pour cette conférence enregistrée par Bernard Rayet le 26 juin 2021 à la gare de Viaur à propos des verreries forestières dans la vallée du Viaur, une conférence proposée par les associations Culture en partage de Saint-Christophe dans le Carmozin-Ségala et Vivre à la gare de Viaur de Montirat dans le Ségala-Carmozin. Dominique Guilbert est notamment l'auteur des livres Verriers et verreries forestières du Rouergue et de l'Aveyron et de Généalogie des gentilshommes verriers du Haut-Languedoc. Bonne continuation sur les ondes d'Albitzès.